Nous sommes dans un monde positif. C'est-à-dire que si vous avez une belle voiture, c'est mieux que si vous avez une moins belle voiture. Si vous avez deux maisons, c'est mieux que d'en avoir qu'une. Si vous avez un compte en banque avec sur votre compte de l'argent avec un chiffre avec plusieurs zéros, c'est encore mieux. Un jour, je parlais avec mon banquier et il était un peu sec avec moi. Alors, je lui dis, écoutez, monsieur, vous auriez beaucoup plus de respect pour moi si je mettais 1 million d'euros sur mon compte. Et brusquement, ses yeux se sont arrondis. Il a perdu ses mots et j'ai compris que l'argent avait beaucoup d'importance pour lui. Et qu'il traitait ceux qui n'avaient pas beaucoup d'argent avec moins de respect que ceux qui en avaient beaucoup. Et qu'il devait vraiment presque dérouler le tapis rouge de sa banque pour les personnes qui avaient vraiment des gros comptes en banque. C'est comme cela. Mais c'est ce monde est positif. Et si vous calculez bien, si vous regardez, vous verrez que toujours on vous respecte si vous êtes arrogant. Si vous avez. J'ai lu quelque chose qui m'a vraiment stupéfié un jour. C'est que dans les entreprises, on embauche plutôt les gens qui ont mauvais caractère. Oui, c'est un critère d'embauche. Parce que si vous avez mauvais caractère, vous êtes agressif, vous en voulez et vous allez faire progresser l'entreprise. Si vous êtes des gentils, que vous. Mais non, mais oui, mais pas. Là, c'est beaucoup moins évident de se faire embaucher. C'est-à-dire que ce monde se base sur la méchanceté, sur le profit, sur l'argent, sur la matière, sur les choses qui finalement ne sont que pour un temps. Si par exemple votre nom est en lettres lumineuses sur un grand bâtiment, on va vous respecter. Et si les lettres lumineuses clignotent, eh bien, on vous respectera encore davantage. Si vous dites n'importe quoi à la télévision, vous serez respecté. Mais si vous parlez avec beaucoup de sagesse chez vous, bon, ça n'a aucune importance. Si vous dites des bêtises en public et qu'il y a des gens pour vous filmer, pour vous mettre dans les médias, eh bien, vous serez quelqu'un de respecté. Tout ce que vous allez dire comme bêtise va être cité pendant longtemps. Les gens vont se souvenir de cela et même ça passera pour de la sagesse. À la longue, ça deviendra de la sagesse. C'est le temps, c'est comme pour le vin. Le temps bonifie certaines expressions. Elles sont stupides quand on les prononce, mais elles deviennent la plus grande sagesse 10 ans, 20 ans plus tard. Et ce monde dit heureux si vous êtes cité. Heureux si vous avez beaucoup d'argent, heureux si vous avez beaucoup de maisons, heureux si vous avez ceci et cela, et heureux si vous ne travaillez pas et que votre vie est une vie de vacances. Alors là, il y a des gens qui en rêvent, hein. Quand j'étais à l'école, mes copains me disaient, quand je serai grand, je chercherai une planque. Je vais vous donner la définition d'une planque. Une planque, ça veut dire vous gagnez beaucoup d'argent, vous ne faites rien, vous êtes honoré comme un grand responsable, mais vous n'avez aucune responsabilité. On vous laisse dans votre coin dormir, faire votre sieste, faire vos mots croisés ou vous jouer sur Internet, ce que vous voudrez, mais vous êtes payé vraiment royalement, hein, comme si vous étiez un PDG d'une grande entreprise avec de lourdes responsabilités. Voilà ce que c'est qu'une planque. Et je ne les ai pas suivis, ces pauvres gars, mais je crois que leur planque, certains s'est terminé en prison parce qu'ils n'étaient pas assez honnêtes pour éviter ce genre d'endroit. Mais quand nous lisons la parole de Dieu, nous voyons qu'il y a tout à fait un autre langage. Un autre langage. La parole de Dieu nous dit heureux. Et c'est la dernière fois que je vous ai parlé, on avait parlé de ces heureux, un heureux. Et c'est heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Ce monde voudrait avoir la terre entière. Oh, des dictateurs qui ont rêvé de conquérir la Terre. Bon, c'est pas toutes, quoi. Oh, un petit peu. Beaucoup. Mais pas, oh, pas tout. Parce qu'ils sentaient bien qu'ils auraient eu du mal à conquérir toute la Terre. Mais raisonnablement, ils se sont dit jamais je pourrais. Mais vous pouvez regarder, vous verrez le nombre de personnes qui, dans ce monde, ont cherché à conquérir le monde. C'est, je me rappelle d'avoir lu dans Hérodote, c'était le roi de Perse. Un de ses courtisans lui a dit, grand roi, tu es roi de un vaste pays. Et pourquoi n'irais-tu pas être roi jusqu'à l'océan à l'ouest? Alors il a dit, ah oui, pourquoi pas. Et il est parti en guerre. Oh, bien sûr, il y a son oncle qui lui a dit, écoute, je crois que c'est un manque de sagesse complet. Bon, mais il a dit avec beaucoup de précaution. Et il a condamné à rester à la maison avec les femmes pendant que les hommes iraient se battre. Évidemment, pas beaucoup d'hommes sont revenus de cette guerre. Parce que même s'il a déployé un grand nombre de personnes pour aller, un jour il s'est heurté aux Grecs. Il n'est jamais allé plus loin que les Grecs. C'est heureusement pour nous, sinon on serait Perse. Mais il avait l'intention de conquérir jusqu'à l'océan Atlantique. Pour eux, hein, il y a le Finistère. Et même je crois qu'en Espagne, il y a aussi un endroit où on parle de la fin de la Terre. Donc vous avez, c'est des bouts. Hein, tout le monde pensait que c'était l'extrémité, conquérir le monde. Et on s'est dit, je serai heureux. Et heureux, c'était un malheur. Parce que qu'est-ce que c'est? Quand on ajoute une chose à une autre, on croit que l'on va être plus heureux. Mais Dieu nous dit, heureux ceux qui sont pauvres en esprit, c'est-à-dire qui se reconnaissent pauvres spirituellement, hein, pas malades mentaux, mais qui se reconnaissent pauvres. Parce que le royaume des cieux est à eux. C'est pas la terre, ou c'est pas 10 hectares, ou 120 hectares, ou un continent, mais c'est le royaume des cieux. C'est quand même une belle perspective. C'est si vous avez de l'ambition, eh bien vous avez quelque chose qui est à la mesure de votre ambition. C'est le royaume des cieux. Si vous voulez être un conquérant, eh bien voilà une terre à conquérir. Le royaume des cieux. Et le Seigneur Jésus nous dit, pour conquérir le royaume des cieux, il faut être humble. Il faut être un des humbles de cette terre. Si vous êtes un orgueilleux, vous ne réussirez pas. Mais pour aller plus loin, pour grandir, pour avancer dans le royaume de Dieu, eh bien, il faut être humble. Il faut se reconnaître petit. Il faut se reconnaître faible. Un jour, je parlais avec quelqu'un, je lui dis, oui, mais nous sommes faibles. Non, 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 moi je ne suis pas faible, hein, je ne veux pas être faible. Hein. Et la réaction était très forte. Et je lui dis, tiens, il y a de la rébellion là. Bon, je ne lui ai pas dit. Mais des années plus tard, la personne me dit, mais je crois que la faiblesse est une qualité dans la vie chrétienne. Ah. Ça va mieux. Il a fallu des années pour l'apprendre. Mais pour que le Seigneur nous apprenne ces choses-là, il faut être laminé parfois. Et il faut passer par des épreuves, et de grandes épreuves. Et beaucoup de chrétiens, les chrétiens les plus profonds que j'ai rencontrés dans ma vie, étaient ceux qui avaient été le plus éprouvés. Je me rappelle d'une dame, c'était notre visite pastorale, j'étais avec un autre pasteur. Il m'a dit, tiens, on va aller voir Madame Bertrand. Elle s'appelait Madame Bertrand. Oh, elle doit être au ciel depuis longtemps maintenant. Mais on va aller voir Madame Bertrand. Alors on est allé voir Madame Bertrand. Et Madame Bertrand habitait dans une bicoque, un taudis, un gourbi. Vous le direz dans n'importe quelle langue, ça existe dans toutes les langues. Hein. C'est un endroit malpropre. Il y a des bassines pour récupérer l'eau qui coule des toits, pour que ça ne mouille pas trop, 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 qu'on ne marche pas dans l'eau. Il faut vider les bassines souvent quand il pleut. Hein. C'était en Bretagne, donc les bassines, il fallait vider souvent. Et cette pauvre femme nous a reçus à sa table de cuisine, qui était entaillée, qui était sur des chaises bancales, et je ne sais même pas s'il y avait une chaise pour tout le monde. C'est et cette femme, elle était heureuse. Elle était heureuse. Et les chrétiens allaient la voir pour être encouragés. Parce que celle qui encourageait les autres, c'était elle. Heureux les pauvres en esprit. Et même les pauvres, parfois pauvres, ils sont démunis de tout. Et quand ils sont tellement pauvres qu'ils n'ont que le Seigneur, il faut qu'ils se tournent vers lui. Et il dit, Seigneur, j'ai besoin ce soir, ou même là, je n'ai rien à manger, hein, il faudra que tu te débrouilles. Et elle en était là, cette pauvre femme. Et on a pu discuter, parler, et elle n'avait que des paroles d'encouragement. Elle était positive. Ce monde cherche la positivité. Eh bien, elle, jamais une parole négative. Jamais elle ne se plaignait de son sort. Jamais elle disait, mais je n'ai pas ceci, ou j'ai pas ça. On priait, elle louait le Seigneur, elle rendait grâce. Je me dis, c'est quand même pas possible, les gens comme ça. Ce sont des personnes qui sont des exemples pour nous. C'est si Dieu vous a donné les biens matériels ou s'il vous a donné des positions sociales convenables et élevées, rendez grâce à Dieu. Rendez grâce à Dieu, c'est un privilège. C'est une grâce de Dieu, une vraie grâce de Dieu. Mais si vous êtes dans des difficultés, que vous avez des problèmes, problèmes de matériel, problèmes de santé, problèmes de toutes sortes, eh bien rendez grâce à Dieu aussi. Et surtout. Parce que c'est un privilège que d'être éprouvé, que d'avoir des moments difficiles. Tout n'est pas facile, heureusement. Et je le répète, hein, tout n'est pas facile, heureusement. Parce que sinon, nous serions arrogants vis-à-vis de Dieu. On traiterait Dieu d'égal à égal. Pourquoi il n'y a pas beaucoup de nobles et de rois qui se convertissent? Parce qu'ils sont des rois. Ils n'ont pas envie d'adorer un roi. Ils sont déjà rois. Ils veulent pas. Il est dit, le royaume des cieux est à eux. Il y a un roi dans ce royaume. Ils n'ont pas envie d'être sous un roi. Ils sont déjà rois. Et plus on a de pouvoir, et moins on a envie de se tourner vers Dieu, parce que on se sent élevé. On se sent quelqu'un de bien, quelqu'un qui tout le monde s'incline devant nous. Et je peux vous dire, il y a des petits rois dans certains petits pays de perdus. Il faut se prosterner 3 fois avant d'entrer dans leur présence. Et je me rappelle cette réflexion de quelqu'un. Il disait, cet homme est de rien du tout. Personne ne pense à lui. Il est roi d'un petit peuple de rien du tout. Et il demande des choses qu'on ne demande qu'à Dieu, que Dieu demande et qu'on ne donne qu'à Dieu. C'est se prosterner 3 fois devant un homme, c'est même devant Dieu, on ne se prosterne pas 3 fois, on se prosterne une fois et on se met à genoux devant lui. Mais pas besoin de faire 3 courbettes pour accéder au trône de Dieu. Tandis qu'il y a des humains ben, qui l'ont fait. Et même s'il y en a une quatrième, alors là, vraiment, c'est quelque chose. On est honoré, là, on a honoré le roi. Mais tout ça nous paraît tellement mièvre et tellement petit et tellement médiocre. On se dit, mais tout ça n'a aucune valeur, aucun sens. Ce que Dieu favorise, c'est l'humilité. C'est quelqu'un qui est humble, quelqu'un qui reconnaît ce qu'il est, qui ne se prend pas pour le nombril du monde, qui ne se prend pas pour un chrétien supérieur. Il y a des chrétiens qui, parce qu'ils ont quelques expériences chrétiennes, croient qu'ils sont des chrétiens supérieurs aux autres. Je me rappelle, un jour, je parlais avec un pasteur. C'était une église d'une autre dénomination. Un des pasteurs de cette église était un ami à moi. Et celui qui m'a parlé n'était pas un ami, mais je le connaissais. Et alors, il me dit, oui, vous savez, nous qui avons les bénédictions du Saint-Esprit, il est évident que nous avons des contrefaçons. J'ai pas soulevé la chose. Ça voulait dire que j'étais une pasteur qui n'avait pas les bénédictions du Saint-Esprit. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, on ne risquait pas du tout d'avoir de contrefaçons. Donc, s'il y a des choses étranges qui se passaient dans son église, et il y en avait, Tout était lavé parce que Satan s'occupait d'eux et il y avait les contrefaçons. Et je me suis dit, mais quand même, quel orgueil. On se vante du Saint-Esprit, nous qui avons. C'est vous, vous n'avez pas. Vous n'êtes pas. Mais il n'y a pas de grands et de petits chrétiens. Nous sommes nés de nouveau, nous sommes réconciliés avec Dieu, nous sommes lavés par le sang de Jésus-Christ. Point final. Ça, c'est notre seule marque qui nous permet d'entrer dans la présence de Dieu. C'est seulement au moyen du sang de Jésus-Christ que nous nous approchons de Dieu et que nous pouvons prétendre à une grâce de Dieu. C'est une grâce imméritée. C'est une grâce qui nous vient par un don précieux qui nous a été offert. Dieu nous a donné son Fils. Et si nous nous approchons de Dieu, si nous avons ce privilège de nous approcher de Dieu, c'est uniquement sur la base du sang de Jésus-Christ. Et c'est en fonction du sang de Jésus-Christ que nous nous approchons de Dieu. Et c'est tout à fait un autre esprit. Si Satan vient vous suggérer quelque chose, je vous le dis parce qu'il l'a fait pour moi. Et il me le fait souvent. Si jamais j'ai une victoire spirituelle, hop, il vient dire, c'est pas mal comme chrétien, hein, ça, tu fais des progrès. Vous l'a dit à vous aussi? C'est très bien, c'est le même. Alors, c'est la marque de fabrique. J'ai pas peur de vous dire qui me l'a dit parce que je sais qu'il vous l'a dit à vous aussi dès que vous avez fait le moindre progrès. Mais ce n'est pas sur la base de nos mérites que nous nous approchons de Dieu. Ce n'est pas sur la base de nos progrès spirituels. C'est sur la base du sang de Jésus-Christ. Qui que nous soyons, quoi que nous ayons été, c'est toujours et ça sera toujours la base du sang de Jésus-Christ. Et ôtez-vous de votre esprit toute autre possibilité. C'est uniquement le sang de Jésus-Christ. C'est l'œuvre de quelqu'un d'autre. C'est l'œuvre parfaite de Jésus-Christ. Quand il est mort sur la croix, il a dit, tout est accompli. Tout est accompli. Et quand nous marchons dans la vie chrétienne et que nous faisons des progrès dans notre vie chrétienne, c'est parce qu'un jour, le sang de Jésus-Christ a coulé pour nous. Et c'est toujours parce que lui, il fait quelque chose en nous, et parce qu'il nous conduit, et parce qu'il nous aime, et parce qu'il parle à notre oreille, et parce qu'il dit quelque chose. Et à un, il fait faire des progrès d'une manière. À un autre, c'est des progrès d'une autre manière. Et nous sommes ensemble pour former un corps. Et nous ne faisons pas tous les mêmes progrès au même moment. Et nous avons besoin les uns des autres et nous avons besoin d'être unis les uns aux autres. Et si quelqu'un pense être quelque chose et pense être le plus grand, eh bien il a tort. Je suis persuadé que Satan vient vous le murmurer à l'oreille. Eh bien ne l'écoutez pas. Refusez absolument c'est tout cela parce que c'est un seul doit être honoré, c'est Dieu. Un seul a donné sa vie pour nous, c'est Jésus-Christ. Si Satan vient suggérer quelque chose, eh bien mettez-le à la porte parce qu'il n'a rien à vous dire sur ces choses-là. C'est quand je regarde l'histoire de notre Sauveur Jésus-Christ, eh bien je vois qu'il est né dans une étable et dans une crèche. Il n'est pas né dans un palais. Il n'est pas né. Il est né dans la misère. Et aussi, c'était pas la misère, c'était bien proche de la misère. Et quand il parlait de pauvre, il savait de quoi il parlait. Parce que il a vécu dans un état voisin de la pauvreté. Il n'a pas été pauvre dans le sens, il avait toujours à manger, il n'était pas indigent. Mais néanmoins, pouvait être compté parmi les pauvres de ce monde. Et c'est nous, nous voulons être des grands. Nous voulons être des riches, même spirituellement. Mais tout ça n'a pas cours là où nous allons. Dans le royaume de Dieu, ce sont ceux qui se reconnaissent pauvres. Et à partir de là, eh bien, Dieu peut faire quelque chose dans notre vie et peut nous faire faire des progrès. Mais tant que vous dites, oh, mais je passe tant de temps dans la prière, je lis tant de chapitres de ma Bible, je fais ceci et je fais ça, vous n'êtes pas dans le bon chemin. Si vous avez la prétention d'être meilleur chrétien que les autres, alors ça ne va pas. Nous sommes de pauvres et misérables chrétiens. Nous avons simplement besoin de la grâce de Dieu. Et si nous avons fait des progrès, si nous faisons des progrès, et j'espère que vous en faites, c'est par la grâce de Dieu. Uniquement par la grâce de Dieu. Ce n'est pas parce que vous êtes meilleur que les autres, ou plus persévérant, ou plus ceci, ou plus cela. Mais il est vrai que nous sommes quand même responsables pour être persévérants, pour prendre la mesure des choses et faire en sorte qu'on fasse des progrès. Mais cela n'est pas, ce n'est pas nous, c'est Dieu en nous, c'est Dieu au travers de nous. Nous avons l'habitude de comptabiliser, de numériser les choses. On se dit, voilà, il y a tant de personnes qui... on aime bien faire des statistiques. Hein. Je me rappelle de quelqu'un, un pasteur, il avait affiché un tableau et il avait fait des statistiques. Il disait, voilà, il y a eu tant de personnes sauvées. Et si on faisait cela et cela, il y aurait tant de sauvés. Et si on fait ça et ça, il y aura... Avec Dieu, ça ne marche pas comme ça. Si les choses ne marchent pas comme cela. Je me rappelle de l'histoire, c'était au XVIIIe siècle. Il y avait un grand prédicateur qui était venu, invité par un pasteur dans une ville. Il avait prêché l'évangile et ça avait duré je ne sais plus combien de temps. Et au bout de ce temps, ils étaient en train de boire quelque chose tranquillement en faisant le bilan. Et l'évangéliste n'était pas très content du pasteur. Et le pasteur était comme un chien qui a fait une bêtise. Alors, l'évangéliste lui dit, oui, mais il n'y a pas eu d'âme sauvée dans cette campagne d'évangélisation. Ça veut dire, voulait dire, l'église n'était pas prête, vous n'avez pas fait ce qu'il fallait pour que les gens soient sauvés. Alors, le pasteur dit, oui, mais évidemment, il n'y a pas... Si, y a un petit garçon qui s'est converti, le fils de la veuve Cook. Alors l'évangéliste a haussé les épaules, il a dit, mais ce n'est qu'un enfant. C'est des années plus tard, ce Cook est devenu un évangéliste. Et on pense que cet homme a amené 5 millions d'âmes au salut. Et cet évangéliste, dans sa vie, a fait le plus grand travail dans cette ville, en amenant un enfant au salut. C'est, du point de vue humain, c'est un échec. Du point de vue de Dieu, c'est une réussite. Du point de vue humain, Jésus-Christ, la vie de Jésus-Christ, c'est un échec. Du point de vue spirituel, la vie de Jésus-Christ, c'est le plus grand triomphe qu'il y a eu sur cette terre. Jamais aucun homme, il n'y a aucun nom plus grand que celui de Jésus-Christ. Tout genou fléchira devant lui pour une raison. Il a donné sa vie sur la croix, en obéissance parfaite au plan du Père. Ça, c'est le plus grand triomphe qu'il y ait eu sur cette terre. Tandis que les gens qui n'ont pas voulu fléchir les genoux et qui ont été durs et qui ont dit « Moi, je conquérirai le monde !» Ils ont conquis une partie du monde. Jamais personne... Il n'y a que l'Antichrist qui va conquérir le monde. Une heure, il va le garder. Une heure. C'est pas beaucoup. Hein. C'est damner sa vie pour régner une heure sur la terre entière. C'est vraiment quelque chose. Et ces gens-là, à la fin de leur vie, faisant le bilan. Quand ils ne sont pas morts sur un champ de bataille, carrément. Et Napoléon, à la fin de sa vie, disait que Jésus-Christ était bien plus grand que lui. Il a admis, il a fléchi le genou devant Dieu. Et il a dit, Jésus-Christ est quand même grand. Parce que moi, mon nom, on en parlera encore dans les manuels d'histoire. Pendant un siècle ou deux. Mais Jésus-Christ, on en parlera tant qu'il y aura un être humain sur la terre. On parlera de Jésus-Christ et de ce qu'il a fait sur la croix. Parce qu'il n'y a rien de plus grand, rien de plus merveilleux que le sacrifice de Jésus-Christ sur la croix. Si le monde s'arrêtait aujourd'hui, eh bien la plus grande œuvre resterait l'œuvre de Jésus-Christ sur la croix. Mais si le monde continuait des milliards d'années encore, ça serait toujours la plus grande œuvre. Personne n'accomplit quelque chose de plus grand que lui. Et pourtant, du point de vue humain, du point de vue des concepts humains, c'est un échec. Il est mort à 33 ans. Quand quelqu'un meurt à 33 ans, dans notre monde, on dit, oh là, c'est dommage, c'est une belle vie qui est perdue. Si on vous dit, hein, C'est, ben, il vaut mieux mourir à 90 ans ou 100 ans, ou même davantage, hein, pourquoi pas, puisqu'on en somme aux chiffres. N'hésitons pas sur les chiffres, c'est facile d'en donner. Mais mourir à 30 ans. Je me rappelle de cet homme qui est allé annoncer l'évangile à un endroit. Il avait des Bibles. Et il est arrivé. Et le bateau est arrivé parce que c'était un moment où c'était pas facile de. On allait en bateau à voile et il y avait une barque qui. Alors il est parti avec sa barque. Le bateau était là et attendait qu'il revienne au cas où. Et puis la barque a atteint le rivage. Il a posé les Bibles et on l'a tué tout de suite. C'était terminé. Et le bateau, quand ils ont vu ça, ils sont même pas allés rechercher la barque, hein. Ils sont repartis parce qu'ils avaient bien trop peur. C'est oui, mais les Bibles sont restées. Et les gens se sont convertis en lisant la Bible. Et ça, c'est quelque chose. Nous, nous sommes des petits humains, nous ne comprenons pas. Et nous disons, oh, mais quelle vie gâchée. Il aurait pu être 100 ans. Qu'est-ce qu'il aurait pu évangéliser? Mais il a peut-être évangélisé plus en mourant là que s'il était resté dans son pays. Il aurait été sans doute dans la désobéissance, il n'aurait rien fait. Là, il était dans l'obéissance. Et comme le Seigneur Jésus-Christ, cet homme a donné sa vie. Il a donné sa vie pour que d'autres puissent avoir accès à l'Évangile. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie. Et ça, c'est le plus important. Nous n'avons rien fait dans notre vie chrétienne tant que nous n'avons pas vraiment donné notre vie, comme le Seigneur Jésus-Christ. Et cela paraît insensé. Insensé. C'est quand quelqu'un se reconnaît pauvre en esprit, qui reconnaît sa médiocrité, qui reconnaît sa nullité, il dit Seigneur, je n'ai rien à t'offrir. Je t'offre cette vie. Sans toi, elle n'a aucune valeur. Mais toi, tu es capable de la valoriser, tu es capable de l'utiliser. Alors je la remets entre tes mains. C'est cela, être pauvre en esprit et un heureux en pauvre, heureux celui qui est pauvre en esprit. Parce que celui-là, eh bien, il se dit, mais j'ai rien. Alors, ce que ce peu que j'ai, je le donne. Vous vous rappelez l'histoire de cette la multiplication des pains? Il y avait 5 pains et 2 petits poissons. Et dans une autre, parce que le Seigneur Jésus a multiplié 2 fois les pains. Hein. Donc, au début de son ministère et à la fin de son ministère, il a chassé 2 fois les vendeurs du temple. Au début de son ministère, à la fin de son ministère. C'est pour ça que vous trouvez les 2 fois. Hein. Mais donc, qu'est-ce que c'était que 5 pains et 2 poissons pour 5 000 personnes? Mais ça a été donné. Et avec ce don, eh bien, Dieu a pu faire quelque chose. Il a multiplié. Dieu, vous dites, mais je suis rien, je suis incapable, je suis petit, je suis nul, je suis. Bon, d'accord. Ne vous arrêtez pas à tout ça. Vous avez reconnu, mais mettez cela entre les mains de Dieu. Et à partir de là, Dieu va pouvoir utiliser votre vie. Et alors là, vous allez être un conquérant du royaume de Dieu. Et vous allez conquérir le royaume de Dieu. C'est vous allez grandir dans le royaume de Dieu. Vous allez vous approcher de Dieu. Vous avez les plus. Votre vie va aller plus loin. Mais tant que vous voulez être le grand chrétien, le grand homme de prière ou grande femme de prière, celui qui lit la Bible plus que les autres, celui qui fait ceci, celui qui fait ça, celui qui, eh bien, vous ne serez rien dans le royaume parce que vous avez trop. C'est quand vous avez peu que vous reconnaissez que vous avez peu et ce peu, vous le donnez. Et à partir de ce moment-là, eh bien, vous êtes heureux. Et vous possédez vraiment le royaume de Dieu. C'est alors Dieu peut travailler avec vous. Il peut faire des choses merveilleuses. Mais Dieu fait grâce aux humbles. Il résiste aux orgueilleux. Si vous êtes fier de vous, de votre vie chrétienne, vous n'êtes pas dans le bon chemin parce que vous êtes dans l'orgueil. Il faut se reconnaître pauvre, se reconnaître humble. C'est reconnaître que nous sommes. Et même si nous arrivons à qu'est-ce que c'est après? Imaginons que vous passez 10 heures dans la prière et la lecture de la Bible. Hein? Allez, comme ça vous faites les deux ensemble. 10 heures, c'est un bon chiffre. Hein? C'est si vous l'avez fait, si vous le faites, vous pouvez dire je le fais tous les jours depuis 10 ans. On ajoute les chiffres aux chiffres. Mais est-ce que votre vie chrétienne a grandi? Est-ce que vous êtes plus humble? Ou est-ce que vous êtes plus orgueilleux? Si ça vous a mené à être plus orgueilleux, vous n'êtes pas dans le bon chemin. Si vous êtes fier de ce que vous faites, si vous êtes satisfait de ce que vous faites. Mais Dieu ne nous demande pas 10 heures. Il demande toute la vie. Il demande chaque seconde. C'est chaque moment, c'est avec lui. C'est vous vous réveillez la nuit, vous êtes avec lui. Vous passez du temps. Il y a des moments où vous vous réveillez la nuit, vous êtes en train de prier. Il n'y a pas de temps pour prier. Vous êtes dans la rue, vous priez. Vous êtes dans le métro, vous priez. Et la voix de Dieu vous dit, prie. Et vous voyez une personne, le Seigneur vous dit, prie. Et vous êtes... Il y a des moments où on prie, on prie, on prie, on prie tout le temps. Si la parole de Dieu nous dit prier sans cesse. C'est pas 10 heures, c'est sans cesse. C'est la parole de Dieu. Je lis 5 chapitres par jour. Il y a aussi des petits comptabilisateurs. C'est 3 chapitres, je crois que c'est 3 chapitres par jour. Et voilà, et 5 le dimanche. Et ben oui, le dimanche c'est 5. Et donc on a notre ration quotidienne. C'est la ration chrétienne, la ration de survie. Et avec la ration de survie, eh bien, nous avons lu la Bible en une année. Et je connais beaucoup de personnes qui sont adeptes de ce genre de choses. Alors, je ne veux rien dire contre, mais si vous êtes satisfait de cela, vous n'irez pas très loin. Mais essayez une chose. Demandez, Seigneur, qu'est-ce que tu aimerais bien que je lise aujourd'hui? Mets sur mon cœur un passage à lire aujourd'hui. Et parfois, vous serez conduit à lire des passages que vous n'aimez pas lire. Et prenez garde aux passages que vous n'aimez pas lire. Et moi, je me suis posé un jour la question. Il y avait un passage biblique que je n'aimais pas lire. Et un jour, je me suis dit, mais pourquoi tu n'aimes pas le lire? Et je me suis rendu compte qu'il y avait une désobéissance dans ma vie. Et que ce passage mettait le doigt sur la désobéissance. Et j'ai mis la chose en règle. Et après, le passage, je pouvais le lire facilement. Mais parce qu'il m'accusait de quelque chose. Alors, mais si je fais la règle, 3 chapitres en semaine, 5 chapitres le week-end, je vais lire ce passage qu'une fois dans l'année. Très bien. C'est pas un problème. C'est un peu amer quand je vais le lire. Mais après, vous n'aurez lu Jean 17 qu'une fois dans l'année. Mais je vous le dis, mais lisez-le une fois par semaine ou une fois par mois. Bon, une fois par mois, allez, je vais vous faire une petite concession. Mais il y a des passages qu'il faut lire tous les jours. C'est fondamental dans la vie chrétienne. Vous ne pouvez pas vous contenter de l'avoir lu qu'une fois par an. C'est prier et demander au Seigneur. Donc quand nous comptabilisons comme cela, eh bien cela nous fait grandir dans notre orgueil. Il y a 40 ans que je suis chrétien. J'ai lu 40 fois la Bible. Oh. Pour les chiffres, c'est très beau. Pour la vie chrétienne, c'est moins beau. Mais qu'est-ce que j'en ai tiré? Je me rappelle, c'était Épictète. C'était un philosophe grec. Et quelqu'un lui avait dit, moi j'ai lu Chrysippe. Ah, Chrysippe est un illustre inconnu qui a disparu de notre horizon. Mais c'était un grand écrivain de l'époque qui donnait des bonnes règles de vie. Et alors, il lui a dit, lu Chrysippe, mais n'importe qui peut lire Chrysippe. Après tout, moi ce que je veux voir, c'est les résultats de la lecture de Chrysippe. Mais si vous avez lu la Bible, c'est pas le nombre de fois où vous avez lu la Bible d'un bout à l'autre. C'est qu'est-ce que cela a changé dans votre vie chrétienne. C'est cela qui m'intéresse. Après que vous l'ayez lu 40 fois, vous connaissez la cigale et la fourmi par cœur. Très bien. Il y a certains chrétiens qui lisent et qui connaissent des passages bibliques par cœur dans leur vie. Comme ils connaissent les fables de la fontaine. Ça ne va pas plus loin. Mais il nous faut aller plus loin. Nous avons entre les mains la parole de Dieu. Et il faut que nous cessions de nous regarder comme des chrétiens supérieurs parce que nous avons accompli certaines œuvres chrétiennes. Et c'est nos préjugés chrétiens qui sont satisfaits d'avoir accompli telle et telle chose et avoir fait tout ça. C'est lisez vraiment la parole de Dieu. Lisez-la pour changer. Lisez-la pour être transformé. Lisez-la pour entendre la voix de Dieu qui vous parle. Pas simplement pour avoir lu un livre de lecture ou pour avoir fait une lecture de biblique systématique pendant une année. Je ne dis rien contre. C'est l'esprit dans lequel on fait cela qui est mauvais. C'est d'être satisfait de cela et de ne pas aller plus loin. Mais la lecture de la Bible, c'est bien plus qu'une lecture. Elle doit changer notre vie. C'est qu'est-ce que Dieu dit et qu'est-ce que je dois changer? Est-ce qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans ma vie? Est-ce que je dois mettre ma vie en règle et prier et demander au Seigneur? La lecture de la Bible sans prière est quasiment inutile. On a besoin de prier avant de lire la Bible, pendant qu'on lit la Bible et après que l'on ait prié et que l'on ait lu. Parce que cette parole a besoin de faire son travail dans notre cœur, d'agir en nous. Et c'est par la prière. On demande à Dieu, parle-moi, dis-moi ce que j'ai besoin de changer. Et beaucoup de chrétiens ne prieront pas parce qu'ils ne veulent pas changer. Et ils veulent une lecture formaliste de la Bible. Cette lecture formaliste les satisfait et ils se sentent de bons chrétiens parce que leur formalisme a été satisfait. Ils ont prié le matin, à midi, le soir. Ils ont lu un chapitre à ces trois occasions, les trois chapitres. Et je connais même des personnes qui m'ont dit « Je lis un chapitre des Proverbes, il y a 31. » Et bien sûr, il y a un jour où je lis deux chapitres dans la semaine. Ah, gloire à celui qui fait cela. Il a bien, hein, c'est merveilleux. Mais qu'est-ce que cela change? Qu'est-ce que cela a transformé dans ma vie chrétienne? Est-ce que je suis un meilleur chrétien? Est-ce que Christ est devenu plus précieux pour moi? Nous arrivons à la fin d'une année. C'est dans un mois exactement, nous serons en 2013. Est-ce que nous pourrons faire un bilan positif de notre vie chrétienne? Est-ce que nous pourrons dire j'ai fait des progrès dans ma vie chrétienne? Je suis allé plus loin. Je connais mieux le Seigneur Jésus-Christ. Il est plus précieux à mes yeux. Si ce n'est pas le cas, peut-être qu'il faut se poser des questions. Et il faut peut-être se remettre en question. Il faut remettre en question notre méthode, notre manière de vivre la vie chrétienne. Parce que peut-être qu'elle n'en vaut pas la peine. Nous avons des préjugés chrétiens. Et nous devons faire très attention parce qu'ils sont tenaces. Et nous aimons avoir une bonne façade. C'est que les gens voient, voilà, la façade chrétienne que je leur montre. Mais le reste, que les gens ne me voient pas à l'intérieur. Nous lisons notre Bible, c'est facile à lire en public. Est-ce que nous la lisons en privé? Est-ce que nous la lisons vraiment en privé? Est-ce que nous prions vraiment? Est-ce que nos prières sont aussi belles quand nous sommes tout seuls que quand on nous demande de prier dans une réunion de prière? Est-ce que nous sommes aussi profonds, aussi sérieux quand personne ne nous voit sauf Dieu, ou quand tout le monde a les regards sur nous? Qu'est-ce que nous faisons en secret que nous ne dirions pas? Et qu'est-ce que nous aimons une vie publique et que les gens aient une bonne opinion de nous? Et je connais des chrétiens, parce que ça c'est ma petite expérience, des personnes qui, il suffit d'avoir vécu avec ces personnes, vous dites mais c'est pas du tout le même chrétien qu'à l'église. Je me rappelle de quelqu'un qui parlait, bon, je ne vous dirai pas tout, hein, parce que ce n'est pas très très bien, mais cet homme était avec un autre chrétien, il se moquait des personnes qu'il voyait dans la rue, et regarde celui-là, il est ceci, et regarde celle-là, et regarde, et le chrétien était choqué. C'était un diacre d'une église. C'est quelqu'un à qui on avait confié des responsabilités dans l'église et qui avait une légèreté dans la vie. Oh, un jour, ça s'est mal terminé. Aujourd'hui, il n'est même plus dans une église. Ce sont des choses qu'il faut bien faire attention. Notre vie chrétienne, elle est vécue à l'intérieur. C'est celle que nous voulons afficher, c'est pas la vraie. C'est heureux ceux qui s'humilient, ceux qui descendent, ceux qui reconnaissent ce qu'ils sont, ceux qui reconnaissent leur médiocrité, leur petitesse. Et je peux vous dire, quand un chrétien vient me dire « Je ne suis pas un si bon chrétien que ça », j'admire son honnêteté, qu'il vienne me le dire. J'admire cela. Pour moi, c'est un exemple. Un chrétien qui s'humilie et qui dit « Je suis un chrétien faible, je n'ai pas tout compris dans la Bible », et qui prétend avoir tout compris dans la Bible, et qui prétend avoir remis en pratique toute la parole de Dieu. Nous avons bien des lacunes, bien des faiblesses. Nous sommes des petits. Nous avons besoin de grandir. Nous avons besoin de nous approfondir, de devenir des adultes. Il faut se reconnaître petit. Il faut être pauvre à nos propres yeux, petit à nos yeux. Regardez l'histoire de Saül. C'est l'histoire d'un homme qui avait un grand privilège et qui l'a détruit de ses propres mains. C'est Dieu avait donné à David, à Saül, la royauté. Parce que on dit, oui, mais l'homme, le véritable roi, c'était David. Saül n'était pas... Si vous lisez bien le texte, Dieu a donné, c'est Dieu lui-même qui a donné Saül. C'est pas le peuple a demandé un roi, Dieu ne voulait pas donner un roi à ce moment-là, mais il a donné le roi Saül. Et Saül a détruit son privilège de ses propres mains. Au début, il était grand parce qu'il était humble. Quand il est devenu orgueilleux, il a persécuté, il a perdu la royauté. Et quand Dieu il a compris que David serait le roi d'Israël, alors il a persécuté David. C'est l'homme qui avait de très grands privilèges et qui est tombé, qui les a perdus, qui a gâché la chance que Dieu lui a donnée. Et nous pouvons être des personnes comme cela. Dieu nous a tellement donné. Dès que nous perdons l'humilité, dès que nous voulons être supérieurs aux autres, que nous voulons devenir plus grands que les autres, alors nous avons tout perdu. Il faut rester petit et il faut reconnaître notre pauvreté, rechercher. Et la parole de Dieu nous donne une immensité. Le royaume de Dieu est à eux. C'est le royaume de Dieu, vous savez, c'est immense. C'est immense. Et ce n'est pas une région. Ce n'est pas un royaume, ni même dans le ciel. C'est les réponses aux prières. C'est les âmes sauvées. C'est la croissance de l'Église. C'est la communion fraternelle. C'est tout où Dieu règne. Tout ce qui est sous la domination et sous l'autorité de Dieu. C'est cela le royaume de Dieu. C'est là où Dieu est roi. Et partout où Dieu est roi, eh bien, cela devient votre possession si vous êtes des humbles, des petits, qui reconnaissez votre petitesse et qui vous dites « Seigneur, viens au secours. Je suis petit, je suis faible, mais en ton nom, je marcherai contre tous les Goliaths de la terre parce que je crois que tu es tout puissant pour me donner la force, l'énergie, la sagesse, l'intelligence, les sentiments, tout ce qu'il faut pour gagner les victoires, remplir le rôle que tu m'as offert sur cette terre. » C'est la parole de Dieu nous dit « heureux ». Et cela veut dire « malheureux, celui qui ne se reconnaît pas petit, celui qui ne se reconnaît pas pauvre, malheureux celui qui a de l'ambition pour lui-même, malheureux celui qui n'a pas une vie chrétienne comme Dieu voudrait, une vie humble. C'est parce que le royaume de Dieu n'est pas à lui. Il n'y a pas de vraie réponse aux prières. Il n'y a pas de vraie communion fraternelle. Il n'y a pas de vraie communion avec Dieu. Malheureux. Parce que la parole de Dieu, elle nous dit des paroles. Mais vous pouvez trouver l'autre sens, hein? Là, il y a un autre sens, c'est celui de ceux qui n'obéit pas, celui qui ne se reconnaît pas comme humble. Alors celui-là est un misérable sur la terre. C'est lui le vrai pauvre, finalement. Parce que ces pauvres qui se reconnaissent pauvres sont les vrais riches, tandis que ceux qui se croient riches sont les vrais pauvres. Parce qu'ils ont une pauvreté spirituelle, pauvreté de la communion avec Dieu. C'est la plus grande misère qui puisse exister. C'est on traîne sa misère. Et j'ai connu beaucoup de chrétiens qui étaient dans la misère parce qu'ils ne se reconnaissaient pas pauvres. Et ils faisaient tous leurs efforts pour paraître mieux que meilleurs chrétiens que les autres. Et puis finalement, aux yeux de tous, il était évident que leur vie était une vie misérable, qu'ils étaient des orgueilleux. C'est tout, rien de plus. Nous allons prier. Ô Père Céleste, nous voulons te remercier pour ta parole, parce qu'elle est la vérité. Elle est une épée à deux tranchants qui coupe et qui sépare ce qui est précieux de ce qui est vil, ce qui est juste et ce qui ne l'est pas, ce qui est vivant et ce qui est mort. Nous voulons te demander, Seigneur, que cette parole agisse en nous, qu'elle nous montre vraiment la vérité, la lumière, ce qui est juste. Seigneur, mets notre vie à ta lumière, Seigneur, que nous puissions voir clair, que nous puissions comprendre notre médiocrité, notre petitesse, notre incapacité, que nous soyons conscients de nous-mêmes, que nous soyons conscients, Seigneur, de notre orgueil, de tout ce qui ne va pas dans notre vie, que nous en soyons vraiment humiliés et que nous sachions te demander pardon et nous retrouver devant toi, Seigneur, pour mettre notre vie en règle. Ô Père Céleste, éclaire nos yeux, donne-nous l'énergie et la force pour aller de l'avant et pour le courage, Seigneur, de reconnaître tout cela. Ô Père Céleste, nous voulons te demander que tu agisses en nous. Ô Père Céleste, ne nous laisse pas de repos tant que nous n'avons pas vraiment trouver une vraie vie chrétienne, une vie profonde, une vie qui vivante, une vie qui te glorifie entièrement. Ô Père Céleste, gloire et louange à toi, notre Dieu, dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.